Je vais donner la parole à Laurent Chambaud, qui est directeur de santé publique à l'ARS.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et me confondre en excuses, puisque j'aurais souhaité rester toute l'après-midi, mais malheureusement, j'ai un autre impératif qui fait que je dois repartir assez rapidement. Et alors, encore une fois, merci d'avoir bousculé un petit peu l'ordre des choses pour me permettre d'intervenir devant vous. Tout d'abord, premier élément que je voudrais souligner, c'est le plaisir que j'ai à être devant vous et à être devant vous pour ce sujet particulier. Depuis que je suis arrivé à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, je vois à quel point les aspects liés globalement à la précarité, aux inégalités, sont des éléments qui vont structurer fortement les actions que l'on va mettre en place et des éléments qui nous interpellent énormément, y compris par les différentes structures, les différentes personnes qui sont en demande de ce que l'agence peut et de ce que l'agence sera en mesure de faire. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, de pouvoir intervenir auprès de vous sur un colloque sur les PASS est quelque chose qui pour nous est important. C'est d'autant plus important que l'on voit aussi se structurer une réflexion sur le sujet. Et en tout cas, c'est un grand salut auprès des personnes qui portent ce mouvement, parce que véritablement, il y a là matière à creuser à une réflexion forte sur ce problème des inégalités. Alors ça, c'est aussi le premier point sur lequel je voudrais insister dans l'action de l'Agence régionale de santé. Je vous reporte aux déclarations qu'a déjà fait Claude Évin sur le sujet et au site de l'agence, et vous verrez très bien qu'un des éléments qui va fonder le succès de l'action de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, comme de la plupart des agences régionales de santé en France, c'est d'être capable d'infléchir un mouvement sur ce problème des inégalités. C'est un sujet aussi que l'on regarde, et je pense que vous êtes au cœur de cette réflexion, parce qu'on voit deux mouvements en même temps. On voit d'un côté un mouvement sur la précarité qui existe depuis de nombreuses années, qui a été un peu consacré par la loi de lutte contre les exclusions qui a instauré les PASS, et pour lequel on voit bien que les aspects de précarité restent des éléments prégnants dans les inégalités, à la fois par des personnes qui se sentent exclues de l'ensemble du système, pas uniquement des soins curatifs, mais de l'ensemble du système, y compris de l'accès aux droits, y compris de la prévention. Et dans le même temps, on voit percer aussi quelque chose que les organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé, sont en train de pointer du doigt, c'est-à-dire la difficulté à agir sur le gradient des inégalités, les gradients de pauvreté, qui développent aussi, de par des populations de plus en plus aux confins de la pauvreté, des modalités d'inégalité devant la santé et devant les soins. Donc on a à la fois cette perception de travailler sur les publics les plus précaires, mais aussi de faire attention à ce qu'il n'y ait pas un creusement par l'ensemble des gradients entre les personnes les plus aisées et celles qui peuvent le plus recourir au système de soins et les personnes qui, de par leur statut social ou leur statut économique, ont de plus en plus de difficultés à y pénétrer. Et je pense que ça fera partie de vos discussions et de vos réflexions, y compris à travers l'observatoire que constituent les PASS. Vous êtes peut-être les premiers à ressentir ces éléments-là, c'est-à-dire des gens qui, de plus en plus, ne sont pas dans des situations d'extrême précarité, mais font de plus en plus appel à des systèmes de ce type, comme les permanences d'accès aux soins de santé. Donc c'est un sujet pour nous de réflexion, c'est un sujet sur lequel on voudrait arriver à trouver des solutions, mais vous voyez bien que c'est dans un contexte compliqué. Je voudrais maintenant revenir sur le sujet de votre colloque d'aujourd'hui. Les permanences d'accès aux soins de santé, Pour l'ARS Île-de-France, c'est un enjeu qui est un enjeu important pour nous, à la fois pour ce que je viens de vous dire, mais aussi parce que, de par la compétence nouvelle des agences régionales de santé, qui est transversale. Et ça, c'est un point aussi important, puisque jusqu'à présent, les permanences d'accès aux soins de santé étaient vues, entre guillemets, de deux manières par les services de l'État auparavant. Elles étaient à la fois vues par l'Agence régionale de l'hospitalisation dans le cadre des budgets qui étaient alloués aux établissements, et elles étaient vues aussi par le biais de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales, par le biais du programme régional d'accès à la prévention et aux soins, le PRAPS. Et ces deux mondes ne se rencontraient pas toujours, ou en tout cas avaient des difficultés à se coordonner dans de nombreuses régions. En plus, il y avait un point qui passait sous silence, qui était la capacité aussi du système de soins ambulatoires à intervenir sur le sujet. Et c'est vrai que pour nous, c'est un élément qui permet aussi de voir comment l'Agence régionale de santé, qui maintenant a une compétence transversale sur l'ensemble de ces secteurs de la santé, peut aborder le problème des PASS et la façon de prendre en charge les publics les plus vulnérables. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est un élément sur lequel nous souhaitons pouvoir réfléchir, mais nous souhaitons pouvoir réfléchir aussi avec ceux qui ont déjà une expérience, notamment sur le lien, sur l'interaction avec le monde ambulatoire, avec le monde de la prévention, et aussi, mais ça c'est un point sur lequel j'insisterai plus tard, sur l'aspect de l'action sociale. Donc c'est un sujet pour nous encore une fois important, et pour pouvoir l'appréhender, il y a une première phase dont nous avons besoin, et c'est probablement la première tâche à laquelle va s'atteler l'Agence régionale de santé, c'est de pouvoir avoir un état des lieux partagé. Il y a des permanences d'accès aux soins de santé qui fonctionnent de façon probablement différente d'un endroit à l'autre, peut-être de façon différente en termes d'implication d'un établissement à l'autre. Je pense que vous en avez parlé ou que vous allez en parler. Il y a un financement pour lequel on n'a pas, nous, toujours une clarté, une lumineuse clarté sur la façon dont les financements transitent, notamment à travers les MIGAC. Mais il y a aussi derrière la volonté pour nous d'aller plus loin que la loi de 98 qui donnait des éléments généraux sur les PASS, mais de pouvoir partager ce que serait un référentiel d'action pour les permanences d'accès aux soins de santé. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà travaillé sur le sujet, mais c'est un élément sur lequel il est important que nous puissions échanger. Qu'est-ce que représente une PASS? Qu'est-ce que doit représenter une PASS? Qu'est-ce qui doit constituer une PASS? Est-ce que ça doit être partout des consultations sans rendez-vous? Est-ce que les liens, je pose des questions, je ne donne pas les réponses. Comment doivent se faire le lien avec les structures d'urgence? Comment doivent se faire le lien avec l'action sociale, l'intervention sociale à l'intérieur des établissements, mais aussi à l'extérieur des établissements? Comment doit se faire le lien entre la prise en charge de la personne au moment où elles sont vues dans les PASS et ensuite? Comment peut-on travailler en amont? Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons besoin de construire des choses, et nous avons besoin de construire des choses ensemble. C'est d'autant plus important que, je le relis au premier point, c'est ça qui va nous permettre aussi de pouvoir peser sur les financements et sur l'utilisation des financements. Donc, en tout cas pour ma part, j'appelle à ce que l'on soit en mesure de travailler sur un référentiel partagé. Encore une fois, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, mais il faut qu'on se les partage. Un référentiel partagé sur qu'est-ce qu'une permanence d'accès aux soins de santé dans différents types d'établissements. Donc ça, c'est un sujet pour nous qui est un sujet fort et d'importance. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur notre volonté, et c'est lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre volonté de faire en sorte que les passes ne soient pas quelque chose en apesanteur. Nous avons, nous, Agence Régionale de Santé, à travailler sur l'ensemble de ce qu'est la précarité, sur l'ensemble des inégalités. Vous savez, là je parle pour l'Île-de-France, je m'en excuse pour ceux qui ne viennent pas d'Île-de-France, mais en Île-de-France, nous avons une situation sanitaire qui est plutôt globalement bonne, mais avec des très fortes inégalités territoriales et sociales, bien entendu. Je pense que dans beaucoup de régions, il y a aussi cet aspect-là. Ça veut dire que nous devons travailler sur l'ensemble d'un dispositif qui nous permette de combattre cette situation. Pour ça, les PASS sont un des outils. Mais notre volonté, c'est de voir comment cet outil peut être utilisé pour permettre de faire avancer les modalités d'intervention par rapport aux populations les plus précaires. Ce qui veut dire pour nous, et ça je voudrais insister fortement là-dessus, c'est de voir en fait comment les passes peuvent être ouvertes vis-à-vis de l'établissement dans lequel elles sont et ouvertes vis-à-vis de l'extérieur. Et nous sommes en réflexion actuellement, mais j'espère qu'on va pouvoir prolonger cette réflexion, y compris avec vous, pour voir qu'est-ce qu'une passe par rapport à un établissement de santé. Est-ce qu'un établissement de santé n'a pas pour vocation d'accueillir l'ensemble des personnes, y compris les personnes vulnérables? Si oui, ce sur quoi on peut s'accorder, on voit que dans les faits, il y a des difficultés. Les PASS ont été une option pour permettre d'avancer sur ces difficultés. Mais il ne faudrait pas que les PASS deviennent une sorte de lieu uniquement pour les personnes qui ont des difficultés. C'est la responsabilité de l'ensemble de l'établissement. Raison pour laquelle je suis très heureux que la directrice générale de l'assistance publique des hôpitaux de Paris soit venue inaugurer ce colloque, parce qu'on a un enjeu majeur qui est de dire globalement comment on fait et comment à l'intérieur de ça, les PASS peuvent devenir une sorte d'aiguillon pour permettre que véritablement la prise en charge se fasse dans l'ensemble d'un établissement. Et puis si on va plus loin, est-ce qu'une passe doit être hospitalière? Est-ce qu'elle ne doit être qu'hospitalière? Qu'est-ce qu'il en est pour des personnes? Est-ce que des personnes qui ont un certain nombre de problèmes de santé doivent obligatoirement en arriver à venir dans un établissement de santé pour faire reconnaître leurs droits et pour que leurs soins puissent être prodigués? Donc là, il y a une réflexion aussi à avoir qui est à la fois sur le rôle de la passe pour accueillir les gens, mais aussi sur la capacité derrière à infléchir une capacité d'un réseau de santé à prendre en charge des personnes qui sont en situation de précarité ou de grande précarité. Je sais que ce que je vous dis, c'est quelque chose qui peut paraître, disons, un peu théorique. Nous, ce que l'on voudrait, c'est voir véritablement en pratique quels sont les freins à ce qu'on a des difficultés à accueillir des personnes en situation de précarité en ambulatoire. Quels sont les freins, là, pour ma casquette de directeur de santé publique, c'est un élément important. Quels sont les freins qui font que les personnes en situation de précarité ne bénéficient pas des mesures de prévention? Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qu'il faut verser sur le sujet et pour lesquels, en tout cas pour notre part, des expérimentations permettant d'aller plus loin sur ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire des liens avec les professionnels ambulatoires qui veulent bien prendre en charge ces personnes, comment on peut aller plus loin, je pense notamment au réseau précarité, pour permettre que ça devienne un mode de prise en charge des personnes. Donc ça, c'est le deuxième point. On a besoin non seulement d'une réflexion, mais de tester des modèles qui permettent de faire, et c'est vrai que pour ça, les réseaux précarité qui ont déjà eu une expérience sur le sujet sont pour nous précieux. Troisième point qui pour nous en tout cas est important, mais encore une fois c'est lié à ce que je vous ai dit en introduction et qui pour nous est important, et ça c'est quelque chose sur lequel on a besoin de votre vision des choses. On a le sentiment, qui est confirmé par un certain nombre de points, que la frontière entre les publics les plus vulnérables et les publics en situation de pauvreté, et parfois même de milieu modeste, est de plus en plus ténue. Et que les systèmes qui étaient faits au départ pour prendre en charge les personnes en situation de grande précarité deviennent en fait une sorte de système de droit commun pour ceux qui sont dans des situations pour lesquelles ils ne peuvent pas se payer de mutuelle, pour lesquelles ils ne peuvent pas accéder à des pratiques avec des dépassements d'honoraires importants. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut aussi qu'on puisse réfléchir, parce que c'est un élément qui, pour nous, est important de voir cette évolution. Encore une fois, on a quelques données sur le sujet, mais vous avez l'expérience de terrain sur le sujet. Et ça, je crois que c'est un point important. Il y a un autre élément aussi sur lequel je voudrais insister, c'est les problématiques particulières. Je pense notamment, et ça c'est aussi un sujet sur lequel il est important pour nous d'avoir des retours, sur les passes santé mentale. Est-ce que sur des thématiques particulières, il y a besoin de systèmes de ce type-là, et comment ils vont s'articuler de la même manière avec la prise en charge spécialisée, mais aussi avec la prise en charge de droit commun en ambulatoire. Et ça aussi, c'est un élément sur lequel nous avons besoin d'éléments pour derrière construire pour nous une politique et construire derrière un référentiel. Voilà en gros les éléments qui pour l'instant nous animent dans notre réflexion. Je vous rappelle que l'Agence régionale de santé n'est pas une vieille dame, hein, elle a juste un an d'existence. Nous sommes en ce moment en train de construire notre réflexion sur ce que sera la stratégie de l'agence sur les prochaines années. Alors, nous avons déjà élaboré un premier plan stratégique, je pense que certains d'entre vous le connaissent ou l'ont déjà vu, qui est une ébauche de plan stratégique. Nous allons maintenant passer à la phase opérationnelle de voir comment vont se mettre en place les schémas qui vont guider notre action dans les prochaines années. Alors, il y a un élément sur lequel, en tout cas pour ma part, il me semble important de toute façon d'inscrire la façon dont on souhaite que ce réseau des PASS évolue, c'est le programme régional d'accès à la prévention et aux soins. Parce que le programme régional d'accès à la prévention et aux soins, dans la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, je vous rappelle que c'est un programme obligatoire. Nous sommes obligés de rédiger un programme et nous allons le rédiger d'une façon un petit peu différente de ce qui s'était passé dans les programmes précédents, puisque dans les programmes précédents, ils étaient principalement sous l'autorité de la DRAS, sur le champ de compétences de la DRAS. Là, nous allons le mettre en place, nous allons l'élaborer dans le cadre du champ de compétences de l'Agence régionale de santé. Ce qui veut dire que l'on fera un lien entre l'évolution que l'on souhaite pour les permanences d'accès aux soins de santé et l'ensemble des mesures que l'agence va mettre en place par rapport aux aspects de précarité. Et c'est un point, à mon avis, sur lequel, que je veux souligner auprès de vous et sur lequel je souhaite que ça puisse permettre de faire un meilleur ancrage entre l'ensemble des actions qui seront mises en place. Donc ce programme régional d'accès à la prévention et aux soins, nous espérons en faire une première version pour la fin de cette année, de l'année 2011. Et donc il y aura un certain nombre de travaux qui vont être animés entre autres par Isabelle Chabat-Gibert qui est là, donc il faut qu'elle se montre parce que c'est vers elle que vous irez. Et donc c'est pour nous un élément important de pouvoir recueillir l'ensemble de vos observations dans ce cadre. Je terminerai juste par un point pour dire encore une fois que je suis heureux d'être présent parmi vous, mais pour vous dire que je n'estime pas que nous sommes les seuls à être légitimes. Vous êtes légitimes, c'est évident, L'ensemble des opérateurs sont légitimes s'ils souhaitent s'investir sur le sujet, donc bien sûr l'ensemble des établissements de santé, mais aussi les réseaux ambulatoires qui sont prêts à travailler sur le sujet, bien entendu les structures de prévention qui interviennent. Je fais une place particulière pour les collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, il y a un sujet majeur dans ce qui est fait, c'est le lien à faire dans la partie sociale de vos interventions sur les PASS avec l'intervention sociale de droit commun. C'est un élément, à mon avis, fondamental. Les personnes qui sont dans ces situations-là ont besoin, bien sûr, de soins, bien sûr, de prestations en santé, mais ils ont besoin d'un accompagnement social pour la totalité d'entre elles. Et cet accompagnement social, il peut être démarré dans le cadre de ce que vous faites par les intervenants sociaux qui sont présents à l'hôpital ou dans d'autres structures. Mais il faudra bien qu'on trouve les éléments du relais avec le droit social, les interventions sociales de droit commun. Et cette intervention sociale de droit commun, elle est avant tout la compétence des collectivités territoriales. Et je pense que sur ce sujet, des modalités qui permettent d'aller plus loin sur ces collaborations, en tout cas pour ma part, je les appelle de mes voeux. Voilà, je vous souhaite des travaux fructueux cet après-midi. Je suis prêt, si c'est possible, à répondre à quelques-unes de vos questions. Et encore une fois, c'est, je pense, la première d'une série fructueuse de travaux sur ce sujet. En tout cas, je vous le souhaite.
Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette communication ? Est-ce qu'il y a des micros ? Docteur Trinduc.
Par rapport au départ, vous avez demandé de vous indiquer est-ce que l'objectif sera les mêmes que ceux des années précédentes, c'est-à-dire favoriser les actions ponctuelles avec les financements annuels. Est-ce que c'est comme ça que vous pouvez entendre c'est pour mettre en place des expérimentations
Alors, la grosse différence avec les exercices précédents, c'est que maintenant le PRAPS est un programme obligatoire du projet régional de santé. C'est-à-dire qu'il il doit être une déclinaison sur une population spécifique de l'ensemble de l'exercice qu'est le projet régional de santé. Donc, pour répondre de façon précise à votre question, il y aura, si on parle par exemple de la part des actions de prévention du PRAPS qui existaient auparavant, les conditions d'élaboration de ces financements resteront les mêmes, mais ils devront être liés aux objectifs stratégiques de l'agence. Mais on y ajoutera un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire les actions pérenne dans le cadre des autres financements. Je prends un exemple très précis. En tout cas pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, nous ce que l'on souhaite, c'est examiner les missions d'intérêt général et la ventilation des missions d'intérêt général allant au PASS dans le cadre de ce programme, puisque nous avons maintenant la légitimité pour le faire. Donc ça, c'est des points sur lesquels nous irons regarder. De la même manière, nous regarderons aussi les financements qui sont donnés dans le cadre des réseaux précarité, dans le cadre du programme PRAPS. C'est la différence avec les exercices précédents. Et donc, notre objectif, c'est de lier la série d'interventions qui pouvaient être financées de façon ponctuelle, comme vous le dites, parfois pluriannuelle quand on arrivait à les répéter d'une année sur l'autre, qui étaient dans le cadre du budget prévention, promotion de la santé. On va le lier avec ce qui se finance par ailleurs dans le cadre des budgets, que ce soit des établissements ou que ce soit dans le cadre des actions réseau de santé, voire même, c'est un sujet aussi sur lequel on va essayer de travailler, le rôle des centres de santé et des maisons de santé pluridisciplinaires.
Je j'accompagne à la création d'un passe micro-dentaire à l'école. Je voulais savoir à quel interlocuteur avoir affaire à l'ARS, si c'est auprès de la santé publique ou si c'est auprès de. Non, parce qu'on est en relais avec un réseau de santé micro-dentaire et on voulait savoir à quel interlocuteur avoir affaire pour le financement. Est-ce que c'est auprès à l'ARS, hein? Est-ce que c'est auprès de la santé publique ? Est-ce que c'est
auprès de la... Alors, tout d'abord, toutes mes excuses, parce que dans les passes spécifiques, j'aurais dû citer les passes bucco-dentaires, parce que c'est effectivement des passes qui font un travail remarquable sur le sujet, et dans des situations où il y a vraiment des problèmes d'accessibilité très très forts aux soins. Donc, toutes mes excuses. Sur le sujet particulier... la personne qui s'est levée tout à l'heure est pour vous un référent, même si sur l'aspect bucco-dentaire, nous avons une réflexion spécifique en Île-de-France pour développer l'aspect de transversalité sur la santé bucco-dentaire. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on voudrait lier les actions de prévention avec les actions de soins, y compris celles faites par les passes bucco-dentaires.
Une question comme ça, comment sont élaborés les PRAPS et est-ce que des intervenants, c'est Christian Dejeune qui est à la tribune qui parle je le sentais une... Voilà. Comment sont élaborés, est-ce qu'il y a des représentants des PAS, des acteurs des PAS qui participent ou ce sont des discussions qui se font au niveau des directions et des agences uniquement
sur le PRAPS ?
Sur le PRAPS, l'élaboration de ce programme.
Alors, d'abord, je ne parle pas au nom de toutes les agences, hein, puisque chaque agence va avoir son modèle particulier de définition du PRAPS, sachant que ce que j'ai dit, le PRAPS est un programme obligatoire que toutes les agences feront. Alors, pour ce qui est de l'Île-de-France, sur le PRAPS, votre question arrive un peu trop précocement, puisque nous allons démarrer les travaux sur le sujet. Et alors là, je me permets de parler au nom d'Isabelle Chabin-Gimer, mais elle me contredira si besoin est. Il est indéniable que nous irons chercher des interlocuteurs des PAS actuels, notamment pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on a un sujet majeur sur cette histoire de référentiel. On ne va pas le construire nous tout seul. Il faut le construire à partir d'une base qui est la vôtre. Mais il faut aussi qu'on soit capable de conduire les débats, y compris, je suppose, des débats entre vous, sur qu'est-ce qui constitue une PAS. Et ça, c'est un sujet important parce que nous, on a une optique qui est importante, qui est celle que j'ai essayé d'exprimer, c'est la capacité de la PAS à être intégrée dans un dispositif qui est un dispositif qui permette à chaque professionnel de santé de penser que la précarité, c'est important pour lui. Et je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur le sujet.
Merci. Bonjour. Je me demandais... Au milieu, au centre. Je me demandais, en fait, parce que ce matin, on a évoqué quand même les enjeux politiques et économiques qui aussi dirigent les actions. J'avais plusieurs questions. Quelle était d'abord la part de militantisme à un niveau politique plus national? Quelle était la part... que les ARS peuvent jouer dans cette partie de la cour politique, sachant que j'ai bien compris qu'on avait la nôtre à un niveau peut-être local, mais à un niveau national, je pense qu'il y a sans doute des réponses aussi à apporter. Donc voilà, première question, quelle était la dimension militante que peut apporter l'ARS là-dedans, si militantisme il y a. Et puis la deuxième question que je me posais, c'est quelle politique est-il possible d'envisager autour de la couverture santé, auprès des mutuelles notamment. Est-ce que là, il n'y a pas une réflexion à avoir? Voilà. Et puis, vous parlez des réseaux. Je fais partie d'un réseau plurithématique dans lequel la PAS est insérée. Monsieur Evin, sur les ondes de France Inter, il y a peu de temps, a rappelé l'importance des réseaux. Et pour ma part, sur la région de Basse-Normandie, le réseau, notamment concernant le diabète, ferme au 31 décembre. Voilà, donc c'est vrai que autant de... Alors, bien sûr, vous êtes là et je vous pose la question et vous pouvez peut-être pas répondre sur tous les points, mais en même temps, vous comprendrez que je peux pas faire l'économie de cette question. Merci.
Alors, en essayant de n'esquiver aucune de vos questions, bon, d'abord, je ne parlerai pas au niveau national, puisque je me situe au niveau régional, même si on est une grosse région. Alors, quand vous dites quelle est la part du militantisme, nous sommes des professionnels dans une agence qui est un établissement public administratif. Moi, j'aurais tendance à dire que nous, la part qu'on peut apporter, c'est d'être des professionnels engagés. C'est-à-dire qu'on est là pour développer ce que doivent apporter les agences régionales de santé, c'est-à-dire un système de santé plus efficace et plus efficient pour tous. Donc, je pense que ce qui anime un grand nombre de personnes qui travaillent dans les agences régionales de santé, c'est ça. Alors, on ne remplacera pas le militantisme. On peut être par ailleurs dans notre vie privée des militants, mais le militantisme est important à garder dans les structures, notamment les structures de proximité. Nous, notre rôle, c'est vraiment de développer la capacité de l'agence à faire ce pour quoi elle a été créée. Deuxième point, alors, j'ai oublié le deuxième, mais je vais tout de suite au troisième. Je ne suis pas... C'est Basse ou Haute-Normandie ? Je ne suis pas en Basse-Normandie, mais nous sommes soumis, toutes les agences, à la même difficulté. C'est que effectivement, mais ce n'est pas uniquement pour les financements, pour les réseaux, pour l'ensemble des financements, on est actuellement dans une difficulté qui est le fait que les évolutions des crédits ne sont pas à une tendance à la hausse importante, et c'est un euphémisme. Dans cette optique-là, soit on dit, on ne peut rien faire, et puis on baisse les bras et on dit, on ne peut rien faire. Nous, on a une réflexion forte qui est de dire, de toute façon, on est obligé de regarder ce problème de façon particulière. Et on voit aussi un certain nombre de professionnels je viens d'une région auparavant où, je ne sais pas s'il y a des représentants de cette région, qui est la région Franche-Comté. Non ? Si ? Donc, où depuis maintenant plusieurs années, il y a une réflexion sur la nature des réseaux. C'est-à-dire, les réseaux se sont créés de façon importante, avec des difficultés, avec un militantisme fort des professionnels qui l'ont fait, mais ils se sont développés dans une logique thématique. Et nous, la réflexion qu'on commence à avoir en Île-de-France, qui à mon avis est plus évoluée dans quelques autres régions, c'est est-ce que c'est vraiment cette optique-là, alors que même avant, quand les financements étaient relativement plus importants, on voyait la création de réseaux thématiques les uns après les autres, et après des difficultés de coordination entre les réseaux. Donc, nous, la réflexion qu'on a actuellement, c'est est-ce qu'il ne faut pas modifier la logique, d'autant qu'en général, je ne sais pas si vous êtes médecin généraliste, mais la plupart des médecins généralistes que l'on consultait à l'époque nous disaient, oui, mais nous, on est le bout de l'entonnoir, on voit arriver tous ces réseaux les uns après les autres, et on ne peut pas suivre. Donc, il y a, à mon avis, à cette occasion, je ne prends pas position sur la baisse des crédits, et vous comprendrez bien que pourquoi, mais de toute manière, on a besoin de cette réflexion pour savoir les réseaux, y compris les réseaux précarité qui sont des vrais réseaux de proximité, comment ces réseaux-là peuvent aussi faire ce que doit être cette notion de réseau, c'est-à-dire sur une base populationnelle, essayer de résoudre les problèmes des gens, et non pas avoir cette logique d'empilage de réseaux thématiques. Donc, je sais bien que ça ne répond pas à votre baisse de crédit, mais en tout cas, c'est un message qu'on essaye de porter. Il y a vraiment un travail à faire. Et d'autant plus que, et ça on l'a vu, et probablement que vous avez des situations de ce type, les militants qui ont monté ces réseaux sont un peu épuisés. Parce qu'ils l'ont monté, parce que de temps en temps, ils n'avaient pas le soutien de leur institution pour le faire, ou en tout cas un soutien très, très léger. Et là, moi, je suis intimement convaincu qu'il faut qu'on passe à une autre logique. Et peut-être que cette logique, quand je parlais d'efficience, elle peut-être produire des résultats avec des coûts qui sont en tout cas pas plus importants. Je ne me souviens plus de votre troisième question. Oui. Alors, oui, une réflexion, à mon sens, doit être engagée. Vous comprenez bien que l'Agence régionale de santé n'a pas le mandat de discuter avec des mutuelles nationales sur la façon d'assurer des couvertures pour les personnes qui n'en ont pas. Mais on voit que sur certains sujets, il y a des réflexions qui avancent et sur lesquelles, en tout cas, nous, on souhaite les accompagner. Je vous prends un petit exemple qui est sur un sujet particulier. Le Conseil régional d'Île-de-France travaille actuellement sur l'aide à la mutuelle pour les jeunes. C'est vrai que les jeunes sont un public particulièrement vulnérable à ce genre de choses, d'autant qu'en plus ils ont du mal à aller jusqu'au système de santé, au système de soins. Donc nous, on trouve que cette initiative est très importante, et dans le cadre de ce qu'on fait notamment sur le lien avec les différents partenaires, la mutualité, en tout cas la Fédération nationale de la mutualité française, est un partenaire privilégié pour nous. Mais après, il faut construire des modalités. Pour construire des modalités, il faut trouver aussi les moyens de financer ces aspects-là. Mais c'est des éléments qu'on porte. Et quand je disais tout à l'heure qu'il était important pour nous d'avoir des retours, y compris sur les évolutions qui sont en train de se faire, c'est pour nous des arguments pour les porter. Non pas en votre nom, parce que vous pouvez le faire très bien, mais pour accompagner aussi la sensibilisation sur les difficultés croissantes que peuvent rencontrer un certain nombre de populations.
Oui. Passe de Pontoise, Île-de-France, donc. Voilà, je suis désolé parce que je vais me répéter, j'ai déjà dit ce matin. Passe de Pontoise, un peu plus de 10 ans, plus de 5000 personnes qui passent par an. Consultations médicales, des infirmières, évidemment un assistant social, des psychologues, un dentiste, une secrétaire, une dame qui fait l'accueil avec plein de services à côté, douche, vestiaire, même une bibliothèque pour les usagers de la passe. MIGAC, 37 000 euros. Bon, là on est entre nous, on est détendu, soyons fous. Est-ce qu'on peut, à votre avis, demander 38 000 l'année prochaine pour financer tout ça? Alors, plus sérieusement, l'hôpital comble et nous dit, nous, on ne fera plus. Donc, on est en sursis. On n'est pas sûr d'exister l'année prochaine. À qui il faut demander l'argent et, selon vous, qui doit financer?
Vous êtes le responsable de la PASS? Alors, premier point, vous pouvez demander 38 000. Vous avez le droit de demander. Moi, je réponds à votre question. Plus sérieusement, ça, c'est le sujet qu'il faut qu'on investisse. C'est-à-dire, moi, je veux savoir, enfin, nous voulons savoir à l'Agence régionale de santé, effectivement, qu'est-ce qui est fait avec le financement qui sont donnés dans les PASS, dans les différents établissements. Pardon ?
Une fois, on a reçu une visite en 10 ans, on
jette. Oui, mais je peux vous assurer que c'est une préoccupation forte que l'on a. Après, on va voir. C'est-à-dire, je ne vous garantis pas que du jour au lendemain, vous connaissez la situation actuelle des établissements, vous connaissez les taux directeurs, vous connaissez les modes de financement actuels. On ne trouvera pas une manne céleste pour descendre uniquement sur la passe et venir abonder les financements. Mais on a une réflexion à avoir. Et pour moi, la réflexion, elle est à la fois de savoir quels sont les financements qui sont donnés à partir de ce qui est dans la MIG sur la passe, mais aussi travailler en même temps sur ce référentiel. Parce que derrière, moi, ce qui est important, peut-être que dans certains endroits, j'ai eu quelques applaudissements. Il me semble que c'est important que j'ai quelques huées. Il y a peut-être des endroits où on donne trop d'argent pour les passes. J'en sais rien. Merci. Donc, de quoi on a besoin pour avoir sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais ça serait pareil pour les autres régions, un réseau de permanence d'accès aux soins de santé lié à une modalité de prise en charge des populations précaires pour faire en sorte que tout n'arrive pas au pass parce que, tiens, on est content, il y a une passe, ou qu'à l'inverse, il y ait une passe, mais qu'en fait, ce soit l'hôpital qui s'occupe des personnes vulnérables d'une autre manière et que la passe, elle ne serve à rien. Donc, on a besoin des deux, c'est-à-dire, et à mon avis, c'est logique, il y a un, le référentiel, deux, les financements. Donc, moi, je ne suis pas en mesure actuellement, ni aucun de mes collègues de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, de mettre en regard une modalité d'intervention et d'organisation de la passe avec des financements. Si on le fait, on verra. Et puis si, effectivement, il y a un différentiel négatif, nous, ça nous donne des éléments qui permettent de plaider pour dire, ben, si on veut vraiment que les passes fonctionnent, il faut qu'on abonde les passes. Or, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des évolutions nationales. Quels sont les éléments d'argumentaire qu'on a pour dire, non, arrêtez de diminuer les passes, les financements pour les passes. Simplement de dire, nous, on pense que c'est important qu'il y ait des passes. Je suis désolé, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit capable de l'argumenter. Et c'est vous qui pouvez nous le faire, mais c'est les établissements en nous donnant des informations claires et transparentes sur le sujet. Je sais bien, mais je sais, j'en ai déjà discuté, y compris avec Mme Georges. Non, mais c'est le même sujet qu'il peut y avoir, on en avait parlé, sur des médecins qui arrivent, qui sont à un moment donné, qui arrivent à être recrutés par la passe, et puis pour des raisons X ou Y, le poste disparaît, est récupéré ailleurs. Mais pourquoi ce n'est pas sanctuarisé dans le cadre des crédits passe? Donc là, il y a vraiment un sujet pour nous qui est, mais encore une fois, il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on soit capable de dire, nous, Agence régionale de santé, qu'est-ce qu'on attend d'une passe, où est-ce qu'il doit y en avoir et à quel niveau. Et à partir de là, on peut regarder les financements qui sont donnés. Mais encore une fois, sur ce point-là, mais je pense qu'Isabelle a noté, bon, et ben pour toi, c'est un endroit qu'on ira regarder. Mais c'est ce que vous souhaitez, je suppose.
Pour encore deux petites, toutes petites questions, hein, parce que le presse.
Par rapport aux relations entre l'ARS et
on a le poids de notre pouvoir de conviction, ce qui est déjà beaucoup. On a aussi, alors c'est un sujet pour lequel, à titre personnel, je suis sensibilisé, puisque dans une autre vie, quand j'étais inspecteur à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, j'ai participé à la rédaction d'un premier rapport sur l'aide médicale d'État. C'était en 2007. Et j'ai pu percevoir exactement ce que vous dites. Alors, c'est très variable d'une caisse à l'autre. Il y a des caisses dans lesquelles, effectivement, les personnes jouent le jeu et aident plutôt à l'obtention des droits. Et il y a des caisses où ça se fait beaucoup moins bien. Pour ma part, et ce sur quoi on peut y compris travailler, on a des relations régulières avec les caisses d'assurance maladie. En tout cas en Île-de-France, mais c'est valable dans toutes les régions, notamment sur un programme spécifique qu'on appelle le programme de gestion du risque. Donc on est en contact avec les caisses d'assurance maladie. Sur ces sujets particuliers, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir l'information. À partir du moment où on a une information, on peut la traiter. Moi, je ne sais pas actuellement, mais bon, vous me direz, Monsieur Chambaud, vous n'avez qu'à aller regarder auprès des caisses et puis vous le saurez vite, peut-être. Mais s'il y a effectivement des problèmes de ce type-là, On est tout à fait justifié pour dire qu'un droit doit être appliqué. Normalement, il n'y a pas besoin d'une agence régionale de santé pour ça, mais s'il y a des droits qui doivent être établis, il faut qu'ils soient établis. Quand je parlais à la fin, et c'est à dessein que je l'ai mis à la fin, il y a, à mon sens, un travail important, mais sur lequel on peut aussi nous jouer, de lien entre ce qui est fait dans un établissement de santé, ou peut-être dans un cadre futur, dans une structure ambulatoire ou ambulatoire et hospitalière, rêvons aussi. Il peut y avoir le travail que vous faites, mais il faut qu'on arrive à sensibiliser aussi les gens qui sont chargés de l'intervention sociale, y compris de l'ouverture des droits. Et moi, pour être très précis, mais encore une fois, on verra avec Isabelle, mais s'il y a à faire une intervention spécifique sur une caisse, simplement pour lui dire que ça serait mieux pour tout le monde, y compris pour la santé financière de l'établissement, que les personnes puissent avoir une ouverture de droit, enfin, moi je ne vois aucune difficulté à nous le faire. Bien sûr, bien sûr.
Je voudrais pas gâcher, mais je pense qu'on a tous des adresses à prendre sur
le CAS. Ne me donnez que celle d'Île-de-France, s'il vous plaît.
Une dernière question.
Oui, je peux y aller? Oui, je travaille à l'Agence régionale de santé PACA. Sur PACA, la lutte contre les inégalités sociales de santé sont effectivement la première des priorités du PSRS. Et nous travaillons également avec l'articulation avec la cohésion sociale, et nous avons passé une convention de partenariat avec la DRJS-CS. Pour, en ce qui concerne la direction régionale cohésion sociale et jeunesse et sport, par ailleurs, nous sommes deux chefs de projet transversaux, un médecin et administratif, à avoir été nommés pour veiller à ce que les populations précaires ou les personnes en difficulté soient prises en charge, non seulement dans le seul PRAPS, mais dans toutes les politiques de l'agence, y compris dans tous les schémas que nous sommes en train d'élaborer. Donc on a cette mission de veiller de manière très scrupuleuse à ce que les populations précaires soient bien prises en compte. Alors en ce qui concerne les PASS, nous avons sanctuarisé pour le moment les crédits, même augmenté les enveloppes, et nous sommes en train de préparer une évaluation du fonctionnement de toutes les PASS. Donc nous sommes en train de travailler sur les outils, et nous allons à partir du mois de juin nous rendre in situ dans toutes les PASS, de manière à voir comment ça se passe. Alors dans tous les aspects, il y a effectivement est-ce qu'il y a oui ou non de la discrimination, les conditions d'accueil, la qualité de la prise en charge, est-ce que la PASS joue un rôle d'interface en interne et en externe, et également le lien entre les missions données aux PASS et les moyens dont elles disposent. Donc voilà.
Merci de nous avoir informés. Je voulais répondre.
Si je peux juste réagir, je pense que l'intervention de madame est importante, parce que vous voyez, c'en est une preuve, que dans toutes les régions, c'est un sujet sur lequel, de toute façon, l'Agence régionale de santé va devoir se pencher. Et en tout cas, ça, je pense qu'on a aussi un travail entre nous, agence, pour bénéficier des outils réciproques des uns et des autres.
Merci. Je remercie beaucoup Laurent Chambaud d'avoir pris le temps de nous expliquer. On a bien compris les messages. Il fallait qu'on présente bien ce qu'on faisait et les partenariats pour que vous puissiez faire des choix éclairés, qu'on espère les bons.
Merci à vous, et encore une fois, une bonne après-midi fructueuse.
Je vais maintenant...